Je ne sais pas quoi penser de la débandade des Mets de New York avec l'équipe qu'on s'était mis en place. Moi, au mois de juin, Marc, je l'avais dit, à mes yeux, c'était la meilleure équipe dans le baseball majeur. Puis tu arrives à la fin du mois de septembre, tu ne fais pas les séries. C'est une méchante dégringolade.
Exact. Écoute, au 12 juin, là, on menait la meilleure fiche du baseball majeur. Comment on dit ça, là? Les Mets, à chaque année, qu'est-ce qui va arriver? Quel genre de situation? Là, c'est à peu près la pire chose qui pouvait arriver aux Mets.
Au jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado Compte complet est présenté par Don Match à Boucherville et au Saguenay. Votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet, Alain Huzreau, en compagnie de Marc Griffin. La saison régulière est terminée. Évidemment, dans notre premier bloc, on va s'attarder sur les luttes de fin de saison. Ce qui est arrivé, quelques nouvelles aussi qui ont marqué les derniers jours. Et par la suite, on ira de l'analyse et, ben oui, le jeu des prédictions, celui où on a toujours l'air un peu fou. Donc, Ligue nationale et Ligue américaine. Tout de suite, d'entrée de jeu, les Blue Jays de Toronto, premier dans l'Est de la Ligue américaine. Ça n'a pas été facile, Marc. Il a fallu gagner les trois matchs en fin de semaine, mais ils y sont parvenus. regarde. On pourra garder notre analyse pour ce qui s'en vient à la suite des séries des équipes repêchées. Mais on l'avait dit déjà la semaine passée, Marc, que peu importe ce qui arrivait, on a dépassé les attentes chez les Blue Jays. Là, d'avoir ce congé-là, ça va faire du bien à l'équipe.
Oui, absolument. Et on a travaillé fort pour l'avoir, puis tu as raison. Je pense que les Yankees ont fait en sorte que les Blue Jays n'avaient pas le choix de trouver le moyen de... Et tu regardes ces deux excellentes fiches de ces deux équipes-là. Les Blue Jays ont résisté. Alors, faut leur donner crédit. C'est pas facile parce que les Yankees ont connu une fin de saison extraordinaire, même si l'opposition était pas bon. T'en reste, faut que tu gagnes ces matchs-là. Et ils l'ont fait. Oui, Alain, parce que pour plusieurs raisons, ce fameux petit congé. Un, ça va permettre à Bo Bichette peut-être d'être un peu plus en santé, peut-être d'être prêt à, peut-être pas de jouer en défense, mais certes de peut-être être disponible comme frappeur. Deuxièmement, Alain, c'est sûr qu'au niveau des lanceurs partants, on peut retravailler qui va commencer, quoi, analyser tout ça. Ouais. Mais trois, qui est peut-être le plus gros point, c'est de réveiller Vladimir Guerrero, là. Et je veux dire, Kirk a été extraordinaire dans les deux derniers matchs. Springer a été très, très constant. Il y a encore des gars qui ont fait un travail remarquable. T'sais, Nathan Lucas, on n'en parle jamais assez, mais ce gars-là a été encore une fois très, très bon. Mais la pierre angulaire reste Vladimir Guerrero Jr. Puis même si Vlad, statistiquement, a connu une bonne saison, Alain, en termes de puissance, en termes de rendement là, en fin de saison, ça a été beaucoup plus difficile. Alors, il faut que ce gars-là, là, je pense que s'il y a un congé qui pourrait être bénéfique, c'est bien... celui que Vlad va avoir au cours des prochains jours. Là.
Dans mon œil d'amateur, Marc, et on pourrait élaborer là, quand on va voir la prochaine série, ce sera contre Boston ou New York, on sait déjà que ce sera contre un des rivaux de l'Est. De mon œil d'amateur, il y avait de la mêlée. C'est pas compliqué, là. Je sais pas, sur le plan technique, Marc, si tu as vu quelque chose, là, mais j'ai pas trouvé ça joli de le voir aller. Mais il s'est lancé sur des mauvais lancers avec des aidants qui n'étaient pas francs. C'est quoi ton analyse de la chose? Ça se passe.
Mélangé comme un jeu de cartes, Alain, c'est assez évident parce que c'est sûr que mécaniquement, c'était pas chic-chic, mais c'est créé par le fait qu'il y a zéro confiance. Ça paraît, Alain. Tu l'as dit là, d'un amateur, les élans n'étaient pas convaincants, même sur des tirs cadrés en plein centre. Souvent, tu retrouvais tout le poids sur la jambe avant. Alors ça, c'est signe qu'on veut tricher. Il y a un paquet de choses dans ça, mais moi, ce qui me frappe le plus dans Vlad, puis pas juste des dernières semaines ou derniers matchs, et je sais, Alain, que, bon, techniquement, il y a des choses à discuter dans ça, mais il y a beaucoup de balles frappées au sol. Je m'excuse d'employer quelques expressions là, anglophones, mais il y a beaucoup de top spin au lieu d'avoir du back spin sur ses balles. Il a frappé la balle d'aplomb, mais mécaniquement, il y a des choses. Puis tu regardes l'élan de Vlad il y a 2-3 ans, puis tu regardes l'élan de Vlad maintenant, il a l'air beaucoup plus coincé actuellement. Beaucoup moins de bas de corps, les hanches travaillent moins bien. Ça se corrige, ça. C'est sûr que ça se corrige. Puis c'est pas parce que Vlad travaille pas fort pour le corriger, là, au contraire. Mais là, peut-être loin des réflecteurs, pendant une couple de jours à travailler ça, je pense que ça pourrait être bien bénéfique pour Vlad Guerrero.
Écoute, on va voir. De toute façon, on aura l'occasion d'élaborer là-dessus lors de la prochaine série. Les Blue Jays en feront partie inévitablement. Détroit-Cleveland, Marc, Houston sorti. Brièvement, Houston, Marc, c'est une déception. On est en position de faire les séries, ni premier dans la section, ni comme équipe repêchée. Il y a eu beaucoup de blessures, on va le dire. Là, il y a eu beaucoup de blessures. Marc, et on va le répéter, on l'a dit plusieurs fois, je pense, depuis un mois, là, l'incident Frambert Valdez, selon toi, a laissé des traces. Là, et ça, compte tenu que ça s'est décidé en une ou deux victoires, c'est peut-être un incident là, qui malheureusement a pesé lourd là, sur la saison des Astros.
J'espérais avoir tort, Alain. J'espérais avoir tort dans ce dossier-là. Mais ça a créé quelque chose d'épouvantable, selon moi. Là. T'sais, c'est sûr que la blessure d'Alvarez en fin de saison, puis Peña qui était amoché, bon, ça n'a pas aidé. Mais Alain, t'sais, tu peux pas agir comme ça, surtout pas comme l'as lanceur de l'équipe. Il y a quelque chose qui s'est brisé à ce moment-là. Et ça nuit. Puis, tu sais, j'en parle souvent, là, mais moi, la synergie d'équipe, là, c'est quelque chose que t'sais, les gens ne voient pas tant que ça, qu'on calcule pas ça, mais c'est tellement important. Et moi, du côté des Astros, là, ça s'est écroulé à ce moment-là. Et c'est pas une coïncidence. C'est malheureux. Faut apprendre de ça autant dans le cas de Valdez que le reste de l'organisation. Mais on a d'autres ont été meilleurs, tout simplement. C'est parce que sur papier, c'est une équipe qui aurait dû faire les séries, selon moi.
Oui. Il y a les blessures aussi, là, des joueurs importants, là, je pense. Puis le départ de Bregman, le départ de Tucker. Puis Alvarez qui n'est pas là pour une bonne partie de la saison, Marc, tu peux pas compenser ces trois coups de bâton de ta sorte là, avec des recrues. Tu sais, Cam Smith n'a pas beaucoup joué, là, a été dépensé par Zach Cole dans les dernières semaines. On se fie. Moi, je pense que Luis Garcia, là, c'était la blessure clé dans le dernier droit. Là, et dans ce partant, il y a eu beaucoup de blessés. Je pense que ça fait très, très mal aux Astros de Houston. Marc, Détroit a survécu. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Puis, ce qui m'a étonné, je ne sais pas ce que tu en penses, lors du dernier match, on était sûr de faire des séries. Le premier rang n'était pas certain. On savait que c'était Cleveland-Détroit. C'est juste de savoir où le match était pour se jouer. Les deux ont perdu, mais dans le cas de Détroit, Marc, on n'a pas fait jouer Green et Torkelson dans le dernier match. Est-ce qu'on se disait, peu importe où ça va se passer, on a Skubal pour commencer le premier, puis on espère gagner un des deux?
Oui, c'est sûr qu'on était rendu à penser stratégie à ce niveau-là. Ça, c'était assez évident. Moi, m'a dire, Alain, quand j'ai vu les Tigers célébrer qu'ils ont fait les séries officiellement, là.
Ouais.
Tu sais, c'est quand même une des pires situations qu'on a vues dans le baseball. Tu sais, on avait 15 matchs d'avance à un moment donné, là, tu sais. Ouais. Je sais pas. Je sais que les saisons sont longues, mais j'aime pas là, ce que je vois des Tigers actuellement. Puis pas parce qu'à un moment donné, whoop, il y a une coupure qui se fait entre la saison régulière, mais t'as Skubal, puis évidemment, c'est une arme incroyable qu'on a, surtout dans une courte série 2-3. Mais je sais pas. C'est pas certain, moi, qu'on a géré ça comme faut. Pourtant, AJ Hinch, c'est un gars que j'apprécie énormément, mais on a peut-être, je sais pas, pas sûr que c'était la meilleure décision au monde là, ouais. À ce niveau-là. Puis tu sais, juste pour l'organisation, tu veux jouer à domicile?
Oui.
Que tu mettes pas Skubal, c'est une chose, mais que tu fasses reposer les autres dans le dernier droit comme ça. Remarque, tu sais, il y a des choses qu'on sait pas. Est-ce que les gars jouent vraiment blessés? Est-ce qu'il y a des choses, il y a des informations qu'on ne connaît pas? Mais ça reste, Alain, un mois de septembre très, très, très difficile pour les Tigers. Et avec le vent dans les voiles du côté des Guardians, je sais pas. J'ai peur pour les Tigers. Mm-hmm.
Bon. Marc, tu parlais de débandade. Celle qu'on va retenir, c'est celle des Mets de New York. Hein? C'en est une assez spectaculaire. 340 millions de dollars jetés à l'eau. on va le dire. Écoute, on a passé les trois dernières semaines à peu près, Marc, à faire confiance à trois recrues pour tenter de nous transporter. Ça donne une idée, Marc, un peu de la situation dans laquelle les Mets étaient. C'est pas à l'attaque que ça s'est passé. T'as beau blâmer Juan Soto, je sais qu'on n'a pas frappé beaucoup au cours de la fin de semaine contre les Marlins, sauf qu'il y a quand même des bons bras chez les Marlins. Tu sais, Alcantara a une très bonne deuxième moitié de saison, puis Perez et Cabrera, Marc, ont des bras de très bonne qualité. Ça se peut que ça arrive, ça, dans un stade comme celui des Marlins, que tu frappes un peu moins. C'est qu'on n'aurait pas dû se placer dans une situation semblable. Moi, c'est ça que je retiens du côté des Mets de New York. Puis, moi, je serais très surpris qu'en fin de semaine, regarde, on est lundi matin, là, ça se peut qu'en fin de journée, qu'il n'y ait plus de gérant chez des Mets. On vous avertit tout de suite. Mais il y a quelqu'un qui va payer. Je ne sais pas quoi penser de la débandade des Mets de New York avec l'équipe qu'on s'était mis en place. Moi, au mois de juin, Marc, je l'avais dit à mes yeux que c'était la meilleure équipe dans le baseball majeur. Puis tu arrives à la fin du mois de septembre, tu ne fais pas les séries. C'est une méchante dégringolade.
Exact. Écoute, au 12 juin, là, on menait la meilleure fiche du baseball majeur. Comment on dit ça, là? Les Mets, à chaque année, qu'est-ce qui va arriver? Quel genre de situation? Là, c'est à peu près la pire chose qui pouvait arriver aux Mets. D'ailleurs, écoute, pas longtemps après, ça, c'est une affaire, Alain. Le match est terminé, les journalistes qui rentrent dans le vestiaire, puis on pose la question à Pete Alonso, oh, « c'est quoi ton avenir avec les Mets? » Ça a dit, « j'annonce tout de suite que je sors du contrat, puis je m'en vais comme joueur autonome. » Ça indique pas mal ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe. Là. Il y a quelque chose qui me fait dire, Alain, là, que la décision était prise, puis c'était déjà tout croche dans ce vestiaire-là, parce que, tu sais, je veux dire... Est-ce que c'est vraiment parce qu'il a connu une bonne saison individuelle qu'il pense aller chercher encore plus d'argent? Ouais. Peut-être. Mais tu sais, c'est quand même... tu sais, je me serais gardé une petite gêne, là, je sais pas, attendre une journée le lendemain d'annoncer ça. Mm-hmm. Fait que, je sais pas. Est-ce que ça explique qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que c'était une saison très, très individuelle pour les joueurs des Mets puis que finalement, collectivement, ça a pas fonctionné? Mais sous l'ère Cohen, Alain... Mais pas beaucoup de succès là, du côté des Mets. Là. Fait que, je veux dire, il va y avoir une réflexion à faire. Là. Ça va être un hiver assez intéressant à suivre du côté des Mets de New York.
Oui, d'autant plus, Marc, je te dirais, puis ça, on pourra en parler éventuellement, mais juste une petite note là, que probablement que de l'autre côté de la rivière, il y a une équipe qui va chercher un premier but. Tu sais, à moins, bon, il y a Ben Rice, mais ça, on pourra en parler une fois que la saison sera terminée. Il y a des décisions qui vont se prendre des deux côtés de la rivière quant à certaines positions. Donc, puis Alonso, Marc, son contrat fait en sorte que c'est logique qu'il prenne cette décision-là. Ce que tu remets en question, c'est pas la décision comme telle, mais de l'avoir annoncé, tu sais, quelques minutes après que le match
soit terminé. Écoute, les gars sont même pas dans la douche, là. Tu sais, je veux dire, c'est même pas, là, c'est l'impression que, bon, je sais pas. Moi, ça me faisait paraître comme un climat malsain à travers l'équipe. Parce que, puis tu sais, je peux me tromper, mais... Je sais pas, je trouve que là, tu viens de réaliser là, que... Puis en plus, les Reds ont perdu. Fait que si tu gagnes, tu passes, là. Je sais pas. Très difficile à suivre ce qui se passe avec les Mets.
J'ai même une théorie, puis je sais pas si c'est la bonne marque, mais tu sais, t'es à New York, hein, les attentes étaient élevées, t'étais bien parti, puis là, ça file en queue de poisson. Est-ce que en faisant ça, Alonso n'a pas fait en sorte que les autres joueurs ont eu la paix? T'sais? Est-ce qu'il n'a pas agi en leader en faisant ça? Est-ce que c'est. Là, je sais que je m'en vais un peu loin quand je fais ça, mais compte tenu du marché dans lequel on évolue, d'autres joueurs ont probablement pas eu à répondre à des questions plus sensibles. Tout est allé sur Pete Alonso en faisant ça.
Écoute, pas de mauvaise théorie, pas impossible non plus, mais ça expose quand même qu'il y a un problème. Alors qu'on est couvert, tu sais, qu'on est couvert ses coéquipiers à ce niveau-là, absolument, tu sais, ça montre du leadership. En même temps, est-ce que ça démontre le fait que il veut plus jouer avec cette gang de joueurs-là? Tu sais, je veux dire, c'est peut-être ça aussi, là. Tu sais, il a beau dire, ah, moi, j'aimerais ça être un maître, être un bon contre, c'est pas le meilleur contre au monde, on sait la situation d'Alonso. Mais tu sais, ça reste que moi, je pense que si tu avais voulu En tout cas, si tu avais voulu passer un message comme quoi que tu aimerais ça retourner avec les Mets, j'aurais pas
ouais.
Annoncer ça immédiatement comme lui il l'a fait. Alors,
ouais.
Je sais pas quelle lecture qu'on en fait, mais je pense qu'une chose est certaine, c'est qu'il y avait un malaise à l'intérieur de cette équipe-là. Ouais. C'était quoi véritablement? Est-ce que c'est la façon qu'on gérait? Tu as parlé du gérant. Est-ce que c'est la façon dont on a développé, peut-être pas développé parce qu'on a eu des lanceurs recrues, mais est-ce que la préparation de l'équipe était optimale? Bon, regarde, on pourrait analyser ça de bien des manières, mais ça reste une énorme déception à tout point de vue.
Oui. Je t'ai lancé ça, Marc, et pour ceux que j'y crois moi-même, puis je veux dire pourquoi aussi, ça se peut qu'il y ait un peu de ça, mais d'un autre côté, Marc, c'est que tu as déjà été dans un vestiaire, puis je pense que le respect se développe notamment quand tu es imputable, puis l'imputabilité après une débandade comme celle-là, je pense que c'est importante, puis du point de vue de la direction, tu sais, je pense l'imputabilité envers les médias, c'est peut-être dans le grand cahier de la haute direction, je pense que ça va compter, ça. Fait que j'ai hâte de voir quelle sera la réaction.
Ouais.
Puis rapidement, Marc, pour Edwin Diaz, là, regarde, lui aussi peut sortir. Je serais très surpris qu'il se sorte. Il n'y aura pas plus.
Non, pas plus parle, avec les Mets, là. Contractuellement parlant, tu as raison. Là. Dans le cas de Diaz, il va rester puis il va être l'homme de confiance. Tu sais, les salaires, regarde, c'est la première année du contrat de Juan Soto là, qui vient de se terminer. Là. Fait que une grosse masse salariale, il va en avoir encore l'année prochaine là, chez les Mets de New York.
Ouais. Ben écoutez, c'est le temps de s'adresser à vous qui nous regardez ou nous écoutez. La question de la semaine présentée par Sidmar Autoville, votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sidmar.ca. On vous demande vos prédictions. Qui va sortir gagnant de chacune des séries des équipes repêchées? Ne vous gênez pas. Vous nous envoyez vos commentaires sur notre page Facebook, facebook.com/compte-complet-balado. Vous pouvez aussi vous diriger directement vers notre site internet compte-complet.com.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
Alain, si tu me permets, je vais prendre quelques instants pour évidemment souligner notre partenaire principal, le plan de match boutique de baseball. Il y en a deux, une dans la région du Saguenay, l'autre à Boucherville. Évidemment, cours privé, si vous voulez vraiment vous améliorer. Il y a cette possibilité à Boucherville, cage de frappeur donc intérieur pour s'entraîner durant l'hiver. Allez sur leur site internet, évidemment, pour la boutique en ligne. Plan de match, donc on les remercie. Et pour en savoir un peu plus sur notre balado, ben visitez notre site internet qui est le www.comptecomplet.com.
C'est le temps donc d'y aller, Marc, de nos analyses. On va commencer par la Ligue nationale. RDS vous présente les séries impliquant les équipes de la Ligue nationale. Les deux équipes qui ont des laissés-passer au premier tour, les Phillies de Philadelphie et les Brewers de Milwaukee. On lève notre chapeau. Là aussi, Marc, il y a quelques défis. Champion frappeur avec les Phillies, Trey Turner. On va parler de tout ça une fois que ces deux équipes-là seront en lice. On va commencer, Marc, avec... la série qui est la plus prévisible depuis à peu près deux semaines, les Cubs de Chicago contre les Padres de San Diego. Du côté des Cubs, Marc, on a perdu Cade Horton. Ça, c'est un gros morceau. Il était leur meilleur lanceur partant en deuxième moitié de saison. Je ne sais pas si on va être capable de s'en relever. Je mets mes cartes sur la table dans cette série-là. Je pense que ça va leur coûter très, très cher. Carl Tucker vient de revenir au jeu. Du côté des Padres, Marc, il y a un absent de taille, c'est Laureano, ne sera pas de cette série, il était même placé sur la liste des joueurs blessés. Donc, écoute, tu regardes ces deux équipes-là, puis je me dis, avec l'absence de Horton, tu sais, Imanaga n'a pas été aussi dominant au cours des dernières semaines qu'il l'a été au cours de sa première année et demie dans le baseball. Taillon n'a pas si mal lancé, mais enfin, du côté des Padres, on remarque qu'on n'est pas plus constant. Chez les lanceurs partants, mais en relève, par contre, Marc, c'est là, je pense, où la différence va se faire. C'est pour ça que je choisis les Padres. Comment tu évalues les deux forces, Marc?
Ben, écoute, Alain, premièrement, il faut juste rappeler aux gens que les 2-3 se jouent à un endroit et ça se jouait à Chicago.
Ouais.
Parce que les Cubs, évidemment, ont eu la meilleure fiche et tout ça. Donc, les trois matchs vont être présentés à Chicago. Ben ouais, ils n'ont pas été une très, très bonne équipe à l'étranger, soit dit en passant, mais bon, je sais que ça peut s'effacer là, dans une courte série. Moi, Alain, ce qui m'inquiète un peu plus du côté des Padres, c'est leur manque de puissance. Mm-hmm. On n'a pas frappé beaucoup de circuits cette année. Écoute, là, juste pour vous donner des chiffres rapidement, là, ils ont terminé au 13e rang de la Ligue nationale avec seulement 152 coups de circuit. Juste pour donner une idée, les Cubs en ont frappé 223. Fait qu'il y a déjà un... Mm-hmm. Mais là, après ça, tu grattes un peu avec le MPP. Là, la moyenne de puissance est la même du côté des Padres que des Nationals de Washington. On est dans les bas-fonds, évidemment, de la Ligue nationale. Mm-hmm. Alors que à 390, alors que les Cubs sont à 430. Ça, je trouve que c'est un aspect là, qui est évidemment vraiment à l'avantage des Cubs de Chicago. Et l'arrivée de Kyle Tucker, je sais qu'il était absent une bonne partie du mois de septembre, mais c'est le genre de joueur, Alain, qui rend tout le monde meilleur. Et si, dans le rôle offensif, le fait que Tucker revienne, est-ce que ça pourrait pas aider un Pete Crow Armstrong à s'en mettre moins sur les épaules parce que lui, ouais, a arraché drôlement dans les deux derniers mois de la saison? Ouais. Ça pourrait certes aider. Je regarde la ligne du centre. On est excellent des deux côtés, mais un petit avantage du côté des Cubs de Chicago, ouais, donc défensivement de ce côté-là aussi. Et le dernier point que je vais ajouter, qui est peut-être un petit peu l'avantage des Cubs, c'est que les Padres ne frappent pas bien les lanceurs gauchers. En saison régulière, il y a une nette différence. Et là, ben, les Cubs devraient aller dans les deux premiers matchs avec des partants gauchers. Fait que moi, pour toutes ces raisons, je vais choisir les Cubs. Même si j'aime beaucoup les Padres, soit dit en passant, c'est vraiment pas une question de
oh, ouais.
Mais
ouais,
je pense que le fait qu'on joue à domicile, le fait que les Cubs aient une très, très, très bonne défense, le retour de Tucker et évidemment le fait qu'on affronte des gauchers, ben vont nuire aux Padres. Maintenant, tu sais, t'as raison de mentionner que si les Padres mènent après 6, là, c'est terminé pour les Cubs. écoute, une relève, ouais, exceptionnelle là, du côté des Padres de San Diego. Alors, le défi, c'est ça. C'est est-ce qu'on peut prendre les devants au cours des 6 premières manches, puis après ça, ben, tu sais, donner la balle au releveur. Là, ça, c'est l'avantage que les Padres peuvent avoir. Mais, tu sais, t'as raison. Tu sais, je trouve que les partants, si tu m'avais dit Michael King est en parfaite possession de ses moyens, ouais, Dylan Cease, écoute, ouais, une fin de saison extraordinaire. Puis évidemment, avec la saison de Pivetta, je veux dire, probablement que j'aurais penché du côté des Padres. Mais tu sais, ça a été, Michael King est revenu au jeu il n'y a pas si longtemps, un peu d'inconstance, c'est normal. Dylan Cease, mm-hmm, Alain peut te lancer un match sans point de coup sûr, comme accorder 5 points en première. Fait que c'est pour ça que j'ai penché du côté des Cubs.
Oui, écoute, chez les Padres, je suis pas sûr que Dylan Cease va lancer. On a vu ses statistiques à l'étranger, Marc. On va y aller avec probablement Pivetta, King et Darvish. Moi, j'ai l'impression, exact, que c'est les trois partants qu'on va avoir au cours de cette série-là. Donc, Cease va peut-être être le partant du premier match de la série qui va suivre. Et encore là, c'est pas certain. Est-ce qu'on va le garder strictement pour les matchs à San Diego? Si on pense à travers cette série-là, il y en aura au moins un. Donc, c'est pour ça, il y a des options. Puis chez les Cubs, moi, c'est ça. C'est les lanceurs qui font en sorte que je vais y aller avec les Padres. Puis tu as raison, à l'attaque, va falloir que Tatis et Machado en donnent. C'est pas compliqué, là. J'ai confiance en ces deux gars-là, mais l'attaque des Padres repose sur ces deux gars-là en grosse, grosse partie. Évidemment, tu as des acteurs de soutien, là, mais si ta locomotive ne fonctionne pas, puis je l'ai dit souvent, c'est la même chose avec les Blue Jays, si ta locomotive ne fonctionne pas à long terme, c'est ça, mais c'est la série qui me donne le plus de maux de tête. Je t'avoue, là, comme prédiction. Fait que c'est ça. Les Padres vont jouer une partie de 6 manches. Puis au bout de 6 manches, on va avoir une bonne idée qui va gagner le match. Quoi? Tu vois que. Ben surtout si les Padres sont en avant. Attention, c'est serré. Les Cubs en relève. C'est ça. Palencia vient juste de revenir. Mais on verra de toute façon. Ça va être fort intéressant comme série. L'autre série maintenant, là, il y a un piège qui attend les Dodgers qui vont accueillir les Reds de Cincinnati. Marc, je pense la même chose de ce côté-là. C'est que les Reds ont des partants pour embêter les Dodgers de Los Angeles. Tu sais, Hunter Green commence probablement, je serais pas surpris que c'est lui qui commence le premier match, là. Il en lance une bonne, là. Tu sais, Dodolo et Abbott sont capables de faire mal paraître les Dodgers aussi. C'est là qu'il y a le danger. Je pense pas que les Reds battent les Dodgers, mais il y a un danger réel de les sous-estimer.
Ben, je suis pas certain que Dodolo va être disponible. Ça, c'est la moins bonne nouvelle. Ça reste à voir. Mais tu as raison dans le cas d'Hunter Green. Hunter Green peut battre n'importe quelle équipe à n'importe quel moment. Ouais. Par contre, c'est Blake Snell est de retour. Yamamoto va lancer. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est une série qui va être présentée à Los Angeles. Freddie Freeman, lorsque les séries commencent, t'as une autre bébite, lui-là. Là. Mm-hmm. Betts a connu un bon mois de septembre. Les Dodgers, là, Alain, ont pas connu la saison régulière anticipée, même si c'est vraiment pas vilain. Ouais. Mais là, tous les morceaux tombent en place. Là, t'as un Shohei Ohtani qui a connu... Bon, on n'a pas parlé de Shohei Ohtani assez. Là. 55 coups de circuit. Regarde sa fiche comme lanceur. Il n'est pas humain, ce gars-là. Là. C'est n'importe quoi. Mais et là, lui peut arriver en relève. Peut même être le partant du match numéro 3. Pour Blake, tu sais, on peut y aller avec... il y a un paquet d'options. Là. Kershaw sera même pas sur la formation de cette série-là. Fait que, il faut qu'Hunter Green soit parfait. Puis là, après ça, si tu sais, t'as Bailey, c'est correct, mais moi, je pense que les Dodgers vont passer à travers quand même. Même si j'aime beaucoup les Reds, ça a quand même été une saison qui est pas évidente. Je trouve qu'il manque un peu de punch à l'attaque là, du côté des Reds. Là, on parlait de manque de puissance. C'est peut-être un peu le cas du côté des Reds de Cincinnati. Ouais. Belle équipe. Content qu'ils ont fait les séries, mais je vois pas comment... Et même si Hunter Green décide que là, lui gagne le premier match, c'est après ça aussi, Alain, que j'ai de la misère à m'imaginer là, que les Dodgers vont en perdre deux de suite là, contre les Reds.
Écoute, je m'en vais dans le même sens que toi. Là. Oui, il y a un danger. C'est une équipe aguerrie. Tu parles de Kershaw, même pas sûr que Glasnow va être de la formation, parce qu'on pourrait y aller avec les deux Japonais, Ohtani, Yamamoto et puis Snell. Puis il y a peut-être un des trois qu'on n'aura pas de besoin. Bref, on a des options. Évidemment, c'est la relève qui est le point d'interrogation chez les Dodgers. On ne comptera pas d'histoire. Là. Le bas de la formation qui n'est peut-être pas aussi bon, mais Marc, avec un Mookie Betts qui a connu une très, très bonne fin de saison, là, qui est venu ajouter à cette attaque, c'est une équipe qui est faite pour veiller tard. Moi, je pense que ça va se terminer assez rapidement là, du côté des Dodgers à Los Angeles. Et pour les Reds, tu sais, il y a trop de si. En relève, on est correct, mais il faut qu'Eli De La Cruz se réveille. Il n'y a pas eu une bonne deuxième moitié de saison, De La Cruz. Faut que Friedel se rende sur les buts. Faut qu'il dérange. Il y en a d'autres. Tyler Stevenson a eu de gros matchs. Marc, je me reporte à la fin du mois d'août. Il y a eu une série des Reds contre les Dodgers. Ils n'ont pas été compétitifs dans ces trois matchs-là. Évidemment, ça fait plus d'un mois. Les Reds ont le vent dans le dos. Puis c'est difficile de faire de la projection avec, évidemment, un mois de différence. Les Reds, peut-être avec plus de confiance qu'ils en avaient. Mais je trouve que les Dodgers, c'est juste sont équipés pour veiller plus tard que les Reds, tout simplement. Ce serait une surprise si les Reds gagnaient.
Et je veux dire, tu as raison, tu l'as bien dit. Là. Tu sais, je veux dire, De La Cruz, il faut que tes meilleurs soient à leur meilleur dans ces moments-là. Là, surtout que tu es sur papier, il y a un avantage du côté des Dodgers. Oh, oui. Tu joues sur le terrain.
Exact.
Mais tu sais, Alain... Si les Reds créent un petit doute avec une performance d'Hunter Green là, qui était à couper le souffle, ben, tu sais, là, soudainement, il y a comme un peu d'espoir et d'énergie qui arrive de ton côté. Fait que, tu sais, ça se peut.
Oui.
La
dernière fois, Marc, que les Reds ont causé une surprise, je pense aussi gigantesque. Là, on va le dire, il n'y a pas grand monde qui va prendre pour les Reds. Puis je me reporte à la série mondiale de 90. Tu t'en rappelles, tu venais de commencer contre les Aces d'Oakland. Les Aces. Regarde, était pour planter les Reds. C'est pas compliqué, là. Et Tony La Russa le dit bien. Ça a été une de ses plus amères déceptions de ne pas avoir préparé son équipe adéquatement. On venait de balayer les Red Sox de Boston, puis là, on arrive contre les Reds. C'est quoi qui a donné le ton, Marc? Écoute, une bonne performance de José Rio au départ. Puis je ne sais pas si tu te rappelles, le circuit d'Eric Davis dès la première manche contre Dave Stewart.
Eric Davis, Eli De La Cruz, c'est l'Eric Davis. Comprends? Il faut que... Non, mais si De La Cruz arrive et décide de frapper un circuit ou un trip ou je sais pas, frapper un 5, voler le 2, voler le 3, tu comprends? De s'imposer, ben OK, il y a peut-être quelque chose de le fun.
Oui.
Puis une courte série de 2-3, c'est traite aussi, Alain. Ça, c'est traite. Fait que faut être prudent. Mais quand même.
Juste pour dire que ça prend pas grand-chose parfois pour faire tourner l'énergie là, d'une série. Et ça peut être aussi tôt là, que la première manche. Bon, on vous revient tantôt avec la Ligue américaine parce que c'est le temps de la carte de baseball de la semaine. Présentation de cadre d'union dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote de satisfaction parfaite à 100%. Marc, notre dévolu, Harmon Killebrew, ancienne grosse vedette des Twins du Minnesota, qui avait commencé à Washington. Pourquoi? Parce que Washington a déménagé au Minnesota au début des années 60. Mais Washington a toujours eu une équipe. C'est juste qu'on a donné une équipe d'expansion à Washington pour remplacer celle qui était partie. Un peu, c'est le baseball majeur. Des fois, on a des décisions comme ça.
Ouais.
Bon. Harmon Killebrew, Marc, je ne sais pas si tu as déjà vu des images de lui. Il n'était pas très grand, mais il avait des épaules larges qui ne passaient pas dans la porte. Une ossature très... Il y avait de l'air d'un gars de bois. Et quand il y avait un bâton, t'as l'impression que c'était un 2x4 qu'il y avait dans les mains. C'était probablement le joueur Moneyball avant Moneyball. La moyenne en carrière de Harmon Killebrew, 2,56. Il n'a jamais passé proche de jouer pour 300. Mais c'est d'innombrables saisons de 40 coups de circuit. Il a mené la Ligue américaine 6 fois pour le nombre de coups de circuit, régulièrement 100 buts sur balle pour année. Il était craint. C'est un gars du Midwest américain, puis regarde, c'est un gars d'une modestie exemplaire. Peut-être une des vedettes des années 60 les plus méconnues, justement parce qu'il joue au Minnesota probablement. Ça, c'est une des raisons. Mais tu sais, puis aussi, il n'y avait pas de position. Hein. On cherchait où le placer. Premier but, troisième but. Le frappeur désigné peut-être arrivé 10 ans trop tard dans son cas. Mais il était tellement bon, Marc, qu'on lui en a trouvé une position. Tu comprends? Donc, ouais. C'est le genre de joueur qu'aujourd'hui, on voit. T'sais, Kyle Schwarber, par exemple, ce serait peut-être le meilleur parallèle qu'on pourrait faire. Si on parle de joueurs contemporains, mettons-le de l'autre côté du marbre. Là. Mais c'est juste que Harmon Killebrew, physiquement, Marc, c'est un gars, ça paraissait qu'il était fait fort. Comme je dis, il était fait comme un gars de bois. Le terme en anglais, c'est lumberjack. C'était vraiment ça.
Ben, écoute, Alain, on parle de 5 et 11, 210 livres. Ça, c'est ce que sa carte de baseball mentionne. Donc, ben,
c'est ça.
Si ça te donne une bonne idée. Tu sais qu'il est né en Ontario, hein? La ville de l'Ontario, l'Oregon. C'est celle-là qu'il est né. Et ce que tu remarques sur une carte de baseball, c'est que on n'indique pas le nombre de buts sur balle, Alain.
Ah non, ça a pris du temps.
Ça a pris beaucoup de temps avant de mettre but sur balle. Alors, tu regardes sa moyenne, tu vois, effectivement, c'est un gars de puissance. De toute évidence, c'est assez impressionnant. Ouais. Là. Mais on voit pas, tu sais, je veux dire, on sait pas. Est-ce que c'est un gars patient, pas patient? Alors, on suffit beaucoup, évidemment, avec la moyenne au bâton à l'époque. C'est assez flagrant lorsqu'on voit sa carte de baseball là-dessus.
Ben oui, tu regardes le nombre de présences au bâton, tu sais, puis si ça dépense pas 600, un gars qui joue à tous les jours, tu dis, il en a probablement reçu. Quant à la carte comme telle, c'est la série Topps de 1969, 375. La carte la plus populaire de cette série, Marc, Reggie Jackson. Reggie Jackson, donc, c'est sa première saison où il a atteint le statut de super vedette. Et 69, Marc, c'est aussi la première année où on retrouve des joueurs des Expos de Montréal. Il y avait 664 au total. Bien évidemment, les autres équipes d'expansion étaient incluses dans ces cartes-là. Il y en a plus de 600 au total. Quant à Harmon Killebrew, ben, il a été admis au Temple de la renommée du baseball. Par contre, pas à la première année. Et Marc, pourquoi? Sa moyenne au bâton, Marc, c'était encore un des critères. C'était en bas de 260. Donc, pour certains, puis c'est un gars en défense, tu sais, qui s'illustrait pas, mais pour certains, les coups de circuit puis les buts sur balle n'étaient pas... n'était pas tout à fait évalué comme c'est le cas aujourd'hui. C'est temps d'encourager les jeunes à la lecture avec la collection de Baseball Bob de notre ami Bob McDuff. Vous pouvez aller voir directement sur le site internet www.baseballbob.ca. Il y a 4 livres de cette série avec le thème central, évidemment, le baseball. Le 4e livre s'intitule Baseball Bob et le chant des tournesols. Et pour les jeunes, c'est une excellente occasion de s'initier à la lecture, au baseball et faire aller aussi votre imagination. Marc, notre profil aujourd'hui, c'est un joueur qui va se rendre en série, José Ramirez. À Cleveland, il y a un battage actuellement et le battage se fait autour du joueur le plus utile à son équipe. On ne parle pas de joueur par excellence. Ils ont un point quand même. À Cleveland, on dit On a bien beau parler de Judge, on peut parler d'Otani, on peut parler de Rally, mais Cleveland serait où sans José Ramirez? Ça, on va en débattre tantôt de toute façon parce qu'il joue contre les Tigers en série. Mais José Ramirez, Marc, a été embauché avec un gros body de 50 000 $. Tu devines pourquoi, hein, qu'il n'y a pas d'équipe qui est intéressée à lui, hein?
Ben,
sa grandeur. Sa grandeur. C'est le gars qui fait pas 5 et 10. Donc, il y en a beaucoup qui sont passés à côté. Puis même Cleveland n'était pas intéressé. C'est un recruteur, Ramon Peña, qui est allé voir ses employeurs, dit « Les gars, il est capable de jouer en balle. Je l'ai vu jouer sur un champ de tatap. Il était capable de capter les balles. Il courait. » Puis c'est comme ça qu'on l'a embauché. Puis rappelle-toi, Marc, quand on avait fait la Série mondiale de 2016, il venait juste de commencer à prendre le dessus au poste de troisième but. Il n'était même pas certain de faire l'équipe. Quand ça a commencé, c'est Juan Uribe qui était le troisième but régulier, puis Uribe était rendu en fin de carrière. Puis rendu au mois d'août, ben, Terry Francona, regarde, là, on a quelqu'un qui produit, c'est lui qui va être mon joueur de troisième but. Puis là, ben, tu comprends que là, on a appris à le connaître depuis. Il s'est vraiment développé. Marc frappe des deux côtés. On pensait, lui, à l'origine, quand on l'a mis sous contrat, ben, c'est un gars à tout faire. Ça va être un super joueur d'utilité qui va jouer au deuxième but ou comme voltigeur. Il n'a pas la puissance pour jouer au troisième but. C'est vraiment des rapports de dépisteurs de début de carrière. Puis franchement, quand tu regardes dans le baseball mineur, man, il n'a même pas frappé 20 circuits dans l'ensemble de sa carrière. Il a vraiment appris son métier dans le baseball mineur. Et aussi, Marc, il a joué 4 ans avant d'être régulier dans la Ligue d'hiver de la République dominicaine. Et Marc, pour y avoir été l'année passée, c'est une excellente école, surtout pour un jeune, parce qu'il y a énormément de vétérans qui connaissent le tabac, qui jouent dans la Ligue d'hiver. Je pense que c'est pas à négliger, ça.
Non, c'est pas à négliger, Alain. Puis ça prouve encore tout ça que être dépisteur, dénicher du talent, c'est pas une science exacte. Et 5 et 8, 190 livres. Je me répète, 5 et 8. Mais tu l'as dit, Alain, frappeur ambidex, c'est un joueur de balle. Tu vois que ce gars-là, son QI baseball est nettement au-dessus de la vague. Il sait quoi faire ici. C'est chez eux un terrain de balle. Puis surprenant, effectivement, que ça a pris quelqu'un qui a cru en lui. Mais Alain, je trouve qu'on en a beaucoup d'exemples dans le baseball, des gars qui sont en bas de six pieds puis qui vont bien. Il connaît des carrières extraordinaires, puis on s'obstine encore à dire « Ah, oh, il n'y a pas six pieds, on ne le regarderait pas trop. » Si un sport, Alain, où ça ne dérange pas tant, là, c'est, il y en a une autre preuve d'un gars qui, ma foi, puis il joue au troisième, tu l'as dit, il aurait pu jouer à RECO, il aurait pu jouer au deuxième, mais qui a développé sa puissance en cours de route. Écoute, c'est vraiment un des plus beaux joueurs de baseball qu'on a vu dans les dernières années parce que, c'est sûr, t'as mentionné les Judge, puis les Otani, puis les Mike Trout, puis ils ont tous un charisme, puis un physique, puis ils frappent des balles, puis c'est extraordinaire. Mais les gars, comme on dit Ramirez, qui jouent dans un marché qui est pas, évidemment, qui est pas New York ou Los Angeles, qui a décidé de rester là, qui a signé un contrat à long terme. Il a laissé pas mal d'argent sur la table, on va se le dire, là, pour rester à Cleveland. Il est resté avec l'organisation qui a donné une chance et qui répond de cette manière-là. Là. Je veux dire, moi, là, j'en veux 26 gars de même dans mon organisation, là, tu comprends? Fait que moi, j'admire beaucoup ce joueur-là. Puis Cleveland, tu l'as dit, Alain, serait où sans lui? Je n'aurais même pas proche de faire les six. C'est vraiment, vraiment un bel exemple.
Marc, écoute, on peut dire la même chose, José Altuve. Hein? José Altuve, avant que les Astros le mettent sous contrat, là, il a assisté à je ne sais pas combien de décès à l'intérieur du Venezuela. Il n'y a personne qui le regardait à 5 et 5. Là. Fred Manrique, c'est lui qui est responsable de son embauche avec les Astros de Houston. Parce qu'encore là, un peu comme Cleveland, dans le cas de Ramirez, c'est un recruteur. Il a fallu qu'il pousse pour finalement embaucher là. Vous avez quoi à perdre? C'est un peu l'argument là, qu'on avait chez ces recruteurs-là. Marc, New York-Boston. Encore eux autres.
Ouais. Bon,
là, ça va commencer, ça va se dérouler au Yankee Stadium. On pourrait tracer le parallèle, Marc. New York-Boston et Cleveland-Détroit, il y a des parallèles à faire. Pourquoi? Parce que dans le cas de Détroit et de Boston, on commence ailleurs et on a probablement des meilleurs lanceurs du baseball majeur pour le premier match. Fait qu'on va commencer avec Garrett Crochet. Ça, là, c'est, écoute, ça peut être vraiment dangereux pour les Yankees de New York face à une équipe, disons-le, qui n'est pas intimidée de jouer au Yankee Stadium. Tu sais, Crochet, Bayo, Giolito, là, ils ont tiré l'équipe, ces trois-là, au cours de, depuis en fait le mois de juin.
Ben écoute, tu sais, t'as plein d'intimidations. Premièrement, les Red Sox ont remporté 9 matchs cette année contre les Yankees, 5-2 au Yankee Stadium. Fait que, en partant, t'as raison de mentionner ça. Deuxièmement, Garrett Crochet, bon, tu l'as mentionné, là. Écoute, c'est vraiment le. Ouais. Lui peut faire la différence. On a parlé d'Hunter Green tantôt, ça peut être la même chose avec Tarik Skubal, tu l'as dit. Bon, Crochet peut faire la grande différence. Par contre, si toi tu penses que moi c'est la série là où je sais pas qui va gagner cette série. Je sais pas. Et en fait, ce que je trouve plate, c'est que ce soit un 2-2-3. Tu sais, parce que c'est le genre de série que tu veux le voir ces équipes là, c'est bon. Il y a un avantage aux Yankees de jouer à domicile. Les Yankees ont quand même fini très fort, Alain. Judge va bien, Stanton va quand même bien. Ben Rice, ma foi, a frappé les plus gros coups sûrs de l'équipe pratiquement là, en fin de saison. Il y a plein de bonnes choses. Mais Garrett Crochet est fatiguant dans le premier match. C'est après ça que ça peut peut-être un petit peu se gâter du côté des Red Sox. Giolito était bon, Bayo va lancer le match numéro 2, mais va être tantôt très bon. C'est un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Alors que les Yankees, tu sais, ton Fried, tu sais, pas Fried, mais Max Fried et Carlos Rodon, qui arrivent comme un des bons duos du baseball, faut-il le dire quand même, comme lanceur partant. Fait qu'elle est pas facile, celle-là. Elle n'est pas facile, celle-là. Ouais. Mais moi, j'aime les chances des Red Sox, évidemment. Mais compte tenu de la fin de saison des Yankees, Judge est en mission, on veut. Si les Yankees frappent la longue balle, on sait que ça va aller loin leur affaire. Ils sont quand même, faut toujours être conscient, Alain, d'un drôle de jeu en défense ou d'une mauvaise course sur les buts. Par contre, les Red Sox, c'est pas la meilleure défense, même si ça s'est amélioré beaucoup. On est capable aussi de se mettre dans le pétrin pour toutes sortes de raisons. Fait que c'est loin d'être parfait. Moi, je suis vraiment troublé de choisir un gagnant de cette série-là.
Oui. Mais tu y vas avec?
Les Yankees. Oui, mais ça va aller à 3.
Ouais.
Parce que Crochet, d'après moi, va gagner le premier match.
Oui. Mais écoute, je vais avec les Yankees, Marc. Et en fait, je tout de suite étonné mes cartes. Moi, je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout cette année. Je pense que c'est la meilleure attaque du baseball majeur. Là. Écoute, le nombre de coups de circuit, effectivement, on carbure avec... les coups de circuit, pour te donner une idée, Marc, en moyenne, de 1 à 9, là, c'est plus de 30 coups de circuit. C'est intimidant de jouer là-bas. Je sais que les Red Sox ont quand même bien fait, mais il y a trop de trous, je trouve, chez les Red Sox de Boston. Bregman, je n'ai pas aimé sa fin de saison. Il est d'après moi, il n'est pas à 100%. Abreu est revenu en fin de saison dans quel état? La relève des Red Sox, est-ce qu'elle est meilleure que celle des Yankees, à part Chapman? Regarde, Whitlock a eu une bonne saison. Ça, je l'accorde.
Mais moi, je trouve que c'est plate de mettre la pression sur un jeune, mais le fait que Roman Anthony ne soit pas là aussi n'aide pas la cause des Red Sox. Ça, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'aime moins... je vois moins les Red Sox. Mais comme je te dis, moi, je suis déchiré. Moi, j'avais choisi en début de saison, là, si on se rapporte au mois de mars, Alain, que les Red Sox remportent le titre de la division. Quand j'ai entendu Alex Cora dire « Personne ne voyait là », j'ai trouvé qu'il a tiré ça pas mal. Pas mal. Mais il y a eu d'autres défis. Il y a eu le dossier Raphaël Devers en saison. Ça n'a pas été facile. Bon, paquet d'affaires. Ça reste que les Red Sox ont l'équipe pour se rendre, tu sais, pour jouer cette série-là.
Tu avais prévu qu'il était pour gagner, Marc, avec un Tanner Houck qui était pour être en santé, avec un Devers qui jouerait régulièrement cette année.
mais je m'attendais, moi, à voir les trois arriver. T'sais, une des raisons pour laquelle j'avais choisi les Red Sox pour les premiers, c'est qu'on savait que Meyer s'en venait, on savait que Roman Anthony s'en venait. On voyait ce trio de jeunes. Puis comme de fait, ben c'est Anthony qui a vraiment... Ouais. Écoute, Je sais pas si tu avais vu l'affiche sans lui. L'affiche de Roman Anthony, là, j'ai pris ça en note là, l'autre jour, laissez-moi regarder ça, là, mais c'est une fiche, là. Regarde, lorsque Roman Anthony n'est pas de la formation, c'est 46-45. Lorsqu'il est de la formation, 44-27.
Oui, c'est significatif là, comme alors, différence.
Je veux dire, tu sais, je comprends que c'est un jeune, mais c'est tout un frappeur, puis on l'a vu, Alain, puis on en a parlé amplement lorsqu'on faisait des matchs. Fait que, tu sais, est-ce que lui fait la différence s'il est là? Moi, je trouve que ça rend le rôle offensif pas mal meilleur du côté des Red Sox. Peut-être que j'aurais penché du côté des Red Sox à ce niveau-là. Puis même là, je suis pas sûr de mon choix des Yankees. Alors, le simple fait que c'est un 2-3, je trouve ça déchirant dans cette série-là. Ça va être évidemment une série à suivre, mais tu sais, on peut pas passer outre la puissance des Yankees. Ça, c'est évident.
Ouais. C'est pour ça que c'est mon choix. Cleveland-Détroit maintenant. On a parlé de Détroit tantôt qui a presque concédé l'avantage du terrain à Cleveland, même si Cleveland a tout fait pour le donner aux Tigers. Mais regarde, je le rappelle, là, Torkelson Green n'était pas de la formation partante dimanche. Moi, je pense qu'il y a des bobos qui sont cachés. Là. Tu peux, tu sais, avec la possibilité de jouer à domicile, là, tu décides. Enfin, Scoble, le premier match. Mais attention, Marc. Kevin Williams, là, il a eu toute une saison, lui-là. Là. C'est quelqu'un qui a énormément d'étoffes. Je me souviens qu'Alex Agostino nous en a parlé. Lui, c'était vraiment d'être capable mentalement, tu sais, d'être plus constant. C'était ça qui est son défi. Puis cette année, il semble l'avoir fait. C'est pour ça, moi, c'est la série qui me rend le plus dubitatif quant à son issue. C'est sûr que Cleveland a eu toute une fin de saison. Ils ont le vent dans le dos. L'énergie va être de leur côté. Ce qui me fait peur, moi, c'est Scoble et Mize. Ces deux gars-là sont capables de te faire ça en deux matchs, puis salut, bonsoir.
Oui. La réponse est oui. Par contre, moi, je suis un gars qui croit beaucoup. Tu sais, j'en parle souvent, là, mais quand tu as le vent dans le dos, tu as parlé vent dans les voiles, là, moi, je pense que Cleveland va poursuivre contre les Tigers. J'aime les Tigers, tu sais, dans le sens que j'aime bien AJ Hinch, je trouve qu'on a une bonne équipe, il y a plein de bonnes choses dans cette équipe-là, mais il faut que Tarek Skubal soit parfait pour remporter le match numéro un. Puis là, après ça, évidemment, là t'as l'avantage. Mais je sais pas, Cleveland a comme trouvé le moyen. Tu sais, tu regardes la moyenne de points mérités au mois de septembre, on donne rien côté de Cleveland. Mm-hmm. On donne rien. Alors, t'as pas à en marquer une tonne de points. Alors, c'est pas l'avantage des Tigers là, d'avoir une série qui est serrée au niveau du pointage. Moi, je pense qu'il y a un avantage là, du côté de Cleveland. Ceci étant dit, je pense pas que c'est deux équipes qui vont aller très loin en série.
Ouais.
À passer la première ronde, là, la ronde des équipes repêchées. Mais... Mm-hmm. Moi, je pense que Cleveland va poursuivre, alors que Détroit, j'espère. Tu sais, j'espère. Moi, j'aime bien Carpenter, j'aime Green, c'est une équipe. Tu sais, Avi Baez a toujours été un joueur défensivement qu'on a admiré. C'est une équipe que j'apprécie beaucoup, mais je sais pas. Cleveland joue d'une manière qui fait en sorte, tu sais, mené par un José Ramirez comme ça. Même si Ramirez a pas des statistiques impressionnantes en série. Tout comme Aaron Judge, d'ailleurs. Tu sais, on pourrait revenir sur la série là, rapidement, mais tu sais, Judge en série, c'est quand même assez ordinaire. Mais ça reste quand même que pour Cleveland, je pense qu'il y a comme quelque chose de spécial qui se passe avec cette équipe-là. Un peu comme les Tigers l'année dernière. C'était un peu spécial de se rendre en série comme ils l'ont fait. Ça reste à voir. Mais c'est sûr que si Scoble lance comme il est capable, Alain, c'est 1-0 à Détroit, oups, là, ça peut virer.
Ben oui. Moi, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de points. C'est pas compliqué là, dans cette série-là. Cleveland, on a réussi à arracher des points à gauche et à droite. Puis Cleveland, effectivement, ne donne pas grand-chose. Ils vont faire face à une équipe, Marc, dans les 16 derniers matchs, dont le MPP est au-dessus de 600 à peine.
Oui, c'est ça.
Depuis plus de deux semaines. c'est comme je te dis, mais Détroit, compte tenu que tu commences tes deux premiers matchs, ça s'en va en trois matchs, je pense que Détroit n'a pas de chance. Dans le troisième match, là, je pense qu'on n'a pas de chance. Je pense, mais c'est ça. Scoble et Mize sont meilleurs que pas mal des partants. Il y a Gavin Williams là, qui d'après moi. Puis c'est ça. Williams a une très bonne saison, mais il est capable d'en échapper une de temps en temps. Il ne m'a pas prouvé que ce gars-là était capable d'en donner en série. L'année passée, on l'a utilisé, mais là, cette année, il est devenu le premier partant là, par la force des choses. Il y a eu des blessés et tout ça. Ça reste à prouver, mais c'est ça. La clé, je pense, Marc, il faut que Williams tienne tête. Je ne sais pas quand on va l'utiliser, là, mais tienne tête au partant opposé quand on va l'utiliser. Si c'est le cas, Cleveland va gagner. Je ne suis pas sûr. Donc, mais je suis obligé de me mouiller. La première idée, c'était Détroit en raison du scoreboard des Mice. Donc, allons-y de ce côté-là.
Je dirais que la beauté, Alain, d'un 2-3, ce qui est très court, c'est déjà mieux que le fameux... Bon, rappelle-toi, il y avait un seul match, le match à l'émission élimination directe. Bon, le 2-3, ça donne quand même... Même si tu regardes dans le passé, il y a beaucoup de séries qui se terminent en deux, là.
Ah oui.
Mais cette année, par contre, j'ai comme l'impression qu'on pourrait avoir 3 séries sur 4 se rendre à la limite. Moi, c'est les Dodgers que je pense qu'ils vont réussir à gagner 2 matchs là, sans en perdre un. Mais encore une fois, on peut se tromper facilement. Alors que dans l'Américaine, moi, je trouve que c'est 2 séries, Alain, où c'est très difficile de vraiment... ont été là, assurément un gagnant là, dans une courte série. Évidemment, honnêtement, si c'est un 3-5 ou même un 4-7, ça se peut que le résultat soit différent dans mes choix à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais ça reste bon que je trouve ça excitant, une série 2-3, même si le baseball est fait pour courir un marathon et non un sprint.
Écoute, Marc, ça va être intéressant comme série. Donc, en ce qui nous concerne, c'est le temps de vous présenter l'horaire de la semaine à RDS. C'est une présentation de Lester's, qui est le maître du smoked meat et des hot dogs depuis 1931. Faites vos réserves parce que le baseball commence. Il y en aura au cours des 3 prochaines semaines sur nos ondes. Évidemment, en famille, lors d'un match. Barbecue, Lester est toujours au rendez-vous chez votre épicier préféré. Ce qui est sûr au moment où on se parle, c'est qu'on aura des matchs mardi et mercredi, les heures 15h et 21h. À 15h, évidemment, ce sera des matchs au Wrigley Field de Chicago, les Cubs qui vont accueillir les Padres de San Diego. Et à 21h, on aura des Dodgers de Los Angeles qui vont accueillir les Reds de Cincinnati. Ce sera sur nos différentes plateformes, soit RDS, RDS2 ou RDS Info. Nous serons là pour toutes les séries jusqu'aux séries de championnat de la Ligue nationale. RDS présente les séries de la Ligue nationale. Quant à compte complet, nous vous présenterons le premier compte complet la veille du premier match des séries de division. Donc, théoriquement, c'est vendredi, à moins que les 4 séries soient des balayages. Je ne sais pas ce qu'on souhaite. On souhaite toujours les matchs ultimes. Donc, ce serait jeudi à ce moment-là. Mais sinon, vendredi, ce sera l'analyse des séries qui vont s'en venir, les séries de division Ligue nationale, Ligue américaine. Ben écoutez, c'est le mois d'octobre, c'est le meilleur mois pour le baseball, les meilleures équipes sont là, on se souhaite des matchs serrés, des matchs où il y aura de l'émotion, puis nous, on sera là, moi et Marc, pour les séries de équipes repêchées de la Ligue nationale au cours des 3 prochains jours. Bon baseball tout le monde, à très bientôt.
Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.